RCF.
Alors que l'expression dit « ôtez-moi d'un doute », vous, Michel Socquet, vous faites l'éloge du doute. Dans votre ouvrage, vous citez le grand spirituel Marcel Legault qui disait à propos du doute qu'il permet d'échapper à l'esclavage d'une pensée toute faite. Votre livre s'intitule « Ne m'ôtez pas d'un doute, vivre l'incertain » et il est paru chez Salvator. Nous allons donc parler doute avec vous dans ces entretiens. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, vous êtes romancier, essayiste, et donc vous vous attaquez à cette question du doute. Est-ce qu'on peut parler de l'expérience Covid liée à l'écriture de ce livre et la part qu'elle a pris dans votre réflexion sur cette question du doute ?
Il se trouve que le livre devait sortir en mars ou en avril dernier, enfin de l'année dernière.
2020.
2020, et que sa sortie a été repoussée pour les raisons qu'on sait. Je l'avais déjà écrit, mais c'est vrai qu'avec l'expérience du Covid, je l'ai notablement complété. Et en fait, je ne peux pas dire que cet épisode ait infirmé ce que je disais, vraiment au contraire. Je crois qu'on a vu à quel point, pendant cette crise, on était à l'affût de messages clairs, simples, rassurants. Et on a vu à quel point nous ne supportons pas l'incertain.
En quoi est-ce que cette pandémie, les circonstances dans lesquelles elle nous a plongés, nous a mis face à un doute particulier ? Après tout, le doute, on y est confronté notamment sur le plan médical et sur le plan scientifique en permanence.
Oui, 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 absolument. Mais comme on a exigé beaucoup de la science pendant cette période-là, on a bien vu à quel point... On pouvait pas tout attendre d'elle et on pouvait pas incriminer la science pour la crise que nous vivions. Si vous voulez, j'aimerais bien vous lire juste quelques lignes d'un éditorial de Laurent Geoffrin en mai dernier qui disait « Comme tout un chacun devant l'inconnu, les savants tâtonnent, avancent des hypothèses que la réalité dément plus tard, suivent des fausses pistes ou s'égarent parfois dans le dédale des études, c'est la règle de la recherche ». Ainsi, plutôt que de lui tourner le dos, il faut conforter la science, la vraie, qui suppose une part d'incertitude qu'on s'efforce de réduire, non par la rhétorique, mais par l'expérience. Et là, je crois que vraiment, on a vu ça très très nettement, cette difficulté que les uns et les autres, nous avons eue à accepter que la science ne nous donne pas des réponses immédiates exactes, que les politiques tournent peut-être un petit peu en rond pour savoir ce qu'il fallait faire. C'est très très facile d'incriminer tout le monde, c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'il faut faire.
Elle vient d'où cette difficulté à admettre qu'on n'a pas des réponses à tout et que ni les scientifiques, ni les politiciens, ni nos gouvernants, ni qui que ce soit finalement n'est en mesure de nous rassurer complètement ?
Je crois que c'est l'impatience et la panique. C'est l'incapacité que nous avons de comprendre que d'une certaine manière, l'incertain, c'est notre condition humaine. Et c'est même peut-être d'ailleurs comme ça que Dieu nous a voulu, hein, incertain, toujours à l'affût, toujours en recherche, jamais confortablement installé devant nos certitudes en tout cas. J'aime beaucoup ce que disait Amin Malouf là-dessus, il disait « Il m'arrive de penser que si Dieu ne fait jamais devant nous la preuve irréfutable de son existence, s'il nous laisse débattre, spéculer, c'est parce que c'est l'incertitude qui donne un sens à l'aventure humaine. »
Il faut quand même se mettre d'accord, Michel Socquet, sur ce qu'on entend par doute. Est-ce que c'est une forme de nihilisme, le doute ?
Alors non, le doute, de toute façon, et ça je le dis assez lourdement, je l'espère en tout cas dans l'introduction du livre, c'est un petit peu comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Le doute, ça peut être pervers, hein. Il est à la source de tous les complotismes, on met en cause, en doute le 11 septembre, le fait que la Terre soit ronde, tout récemment avec l'affaire Mia, de la disparition de la petite fille, on a vu à quel point on mettait en doute les bonnes intentions des services sociaux. Dès que quelqu'un est nommé à un poste, il y a toujours quelqu'un qui dit « on verra bien de quoi il est capable ».
Donc ça peut créer quelque chose de totalement délétère et de totalement mortifère, le principe de douter.
Et enfermant, le doute peut enfermer tout autant que les certitudes. Donc moi je suis, c'est pas du tout de cela que je parle, c'est pas d'un doute systématique, c'est pas d'un scepticisme systématique, c'est d'un doute constructif, d'une attitude de prudence. Et de mesures dont on a grand, grand besoin en ce moment, je trouve.
Michel Sauquet, dans votre livre « Ne montez pas dans doute, vivre l'incertain », vous voulez faire donc la différence entre un doute constructif, délibéré et, dites-vous, un doute toxique, intéressé ou pervers, ou encore un doute subi. Qu'est-ce que c'est qu'un doute constructif ?
Un doute constructif, c'est une prise de recul. C'est ne pas se précipiter sur les apparences. C'est le doute sur nos propres évidences aussi, on y reviendra peut-être. La capacité de suspendre son jugement, de regarder ce qui se passe. C'est un petit peu la tradition de Montaigne, de Descartes, de Pascal, de Paul Ricoeur. Descartes plaidait pour une attitude systématique de doute. Mais il ajoutait que ça n'est qu'une première étape. À un moment donné, le doute, il faut le dépasser.
Pour aller vers quoi ?
Mais pour aller vers une action constructive, je prends juste deux exemples. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui doutent du réchauffement climatique. C'est gentil, sauf que c'est maintenant qu'il faut agir pour éviter la catastrophe qu'on nous annonce. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui mettent en doute l'importance de la pauvreté, de l'exclusion sociale dans notre pays. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc le doute, c'est une première étape de prise de recul. Par exemple, quand je me trouve en présence de quelqu'un qui se conduit d'une façon qui m'étonne, voire me choque, ma réaction, ça va peut-être être de monter au créneau, de dire « il n'a rien compris, il est mal élevé ». Est-ce que je suis capable de mettre en doute mes propres évidences là-dessus, mon propre regard, et de me demander qu'est-ce qui, dans sa culture, dans son histoire, dans ce qu'il vient de subir, explique tel ou tel type de comportement ?
Quand on parle de doute et qu'on se situe d'un point de vue chrétien, ça peut aussi être à double tranchant. Là encore, comment distinguer ce qui relève du doute systématique et de la mise en cause et de la nécessaire distance dont vous parlez ?
En matière de vérité, en matière de foi, en matière de bien-pensance, il faut toujours qu'on se rappelle que nos évidences ne sont pas forcément celles de l'autre. Qu'elles sont pas si évidentes que ça. Être capable de prendre du recul non seulement par rapport à l'autre, mais par rapport à nous-mêmes. La vérité, il y a beaucoup d'aspects de ce problème. C'est la vérité quoi qu'il en coûte, ou bien d'où vient la vérité. Est-ce que je suis capable de prendre le recul nécessaire par rapport à tout ça ? Évidemment, dans la foi, c'est absolument fondamental de se dire la foi n'est pas le contraire du doute, le doute n'est pas le contraire de la foi. La foi et le doute sont même arrimés de façon plus importante que nous ne le pensons.
On pourrait vous objecter, Michel Sauquet, qu'on n'est pas loin du relativisme quand on parle du doute.
Oui, mais ça ne me fait pas peur. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot relativisme.
Qu'est-ce que vous y mettez, vous, derrière ce mot ?
Le relativisme, c'est pour moi, c'est une attitude consistant à rendre leur position relative aux choses qu'on voit, qu'on pense, etc. Ça n'est pas du tout dire « mais tout se vaut », voilà. Non, c'est les choses, elles sont difficiles à comparer.
C'est pas un nivellement, le relativisme.
Pour moi, le relativisme, il n'est pas du tout nivellement. Je pense que tout ne se vaut pas, tout n'est pas égal, identique. Mais que oui, on gagne, je n'hésite pas à le dire, je sais qu'on peut me critiquer pour ça, mais je n'hésite pas à me dire que je suis relativiste, mais
même dans la foi,
le doute, relativisme constructif. Alors dans la foi, c'est un peu plus complexe. Disons que mon relativisme dans ce domaine-là, il va être plutôt un effort d'ouverture aux autres religions, de compréhension de leur richesse, de dialogue avec ces autres religions, plutôt que le fait d'ériger mon Église en modèle suprême, supérieur à tous les autres.
Est-ce qu'il y a, malgré tout, selon vous, des choses indubitables, voilà, des choses qu'il faut savoir affirmer et ne pas mettre en doute pour ne pas quand même risquer d'être en permanence sur des sables mouvants ?
Affirmer ou proposer. Moi, j'aime pas trop le mot d'affirmation. Le sous-titre du livre, avant que ce soit « Vivre l'incertain », c'était pour en finir avec les certitudes conquérantes. Et moi, tous ceux qui affirment trop fort les choses, ça me fait un tout petit peu peur. Donc là aussi, je suis pour une attitude de mesure. Et je pense pas qu'en matière, par exemple, de foi, de religion, on puisse asséner des vérités, on puisse penser finalement être missionnaire en assénant, en affirmant de façon très tranchée les choses. Je pense que c'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça qu'on peut dialoguer et s'ouvrir les uns aux autres.
Mais si ces certitudes qu'on porte, on les garde pour soi par exemple, sans les affirmer vis-à-vis des autres, sans les asséner aux autres, mais comme un socle intérieur sur lequel on s'appuie et à partir duquel on a cette expérience qui consiste à chercher Dieu finalement.
Mon socle intérieur, personnellement, ça n'est pas un ensemble de certitudes, c'est un ensemble de convictions. C'est pas tout à fait la même chose. Ces convictions, elles ne regardent que moi d'une certaine manière. Mais en même temps, je peux les partager. Si j'essaye de partager des certitudes, au marteau, à la force du poignet, je n'arriverai à rien.
Merci beaucoup, Michel Sauquet. On vous retrouve demain pour poursuivre ces entretiens.
Merci.